Bon vendredi matin à tous. Maxime Hockerson, comment ça va?
Super bien, toi, mon Jeff.
Ça va très bien. Honnêtement, encore une fois, c'est vendredi. On n'aura pas une super belle fin de semaine, je pense, par exemple. Il annonce de la pluie pas mal, fait que, mais c'est pas
On a été
grave.
gâtés. On a
On
été
a été
gâtés cette
très, très,
semaine, quand
très
même.
gâtés, effectivement. Ce matin, Max, on atteint un énorme plateau pour le show du matin. 30e show officiellement. Hein?
Ouais,
Quel exploit.
champagne,
Champagne.
mimosa. Félicitations, Jeff. Félicitations.
Hey, félicitations. Écoute, hâte au centième.
Ouais, ça va être intéressant.
Écoute, pour en plus pour le pas l'honneur, mais l'événement, on a deux invités aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, on a Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB qui vient parler avec nous des Québécois dans le show. Salut Charles-Alexis.
Salut les
Bonjour
boys,
Charles-Alexis.
ça va bien? Ça va
Ben
bien
oui,
toi?
toi?
Ben oui, super.
Good. Et
Charles-Alexis, ben, puis c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
on a Barbu de Ville par la suite.
Oui, exactement. Tout de suite après Charles-Alexis, Barbudeville qui entre pour nous conter son histoire.
Ouais.
Ouais. J'ai hâte de voir ça. L'histoire est en ligne à partir de maintenant. Donc, ceux qui veulent aller la lire peuvent y aller. Mais vous allez entendre de sa bouche le texte au complet, intégral.
Fantastique.
Charles-Alexis Brisebois, ce matin, on jase Québec, on jase des Québécois dans le show, dans les collèges américains, un peu partout en Amérique. Avec quel nom tu veux commencer ça ce matin?
Ben écoute, je veux qu'on parle un peu de Charles Leblanc, qui est un gars qu'on connaît, tu sais, un gars de Laval. Tu sais, je connais bien son père Paul. C'est intéressant le cas de Charles parce qu'il était super bien parti. Là, on va se souvenir, les gars, tu sais, c'est un choix quand même intéressant là, des Rangers du Texas qui joue du côté gauche de l'avant-champ, donc à Réco, troisième but, mais qui est capable de plus en plus de devenir le joueur polyvalent que toutes les équipes espèrent obtenir. Donc, il est capable de jouer au deuxième, au premier but. On l'a vu obtenir des répétitions dans le champ gauche, même en 2019, dans le 2A. Puis, il avait connu une super belle saison au point où il avait été invité au match des étoiles de sa ligue dans le 2A. Donc, vraiment, il était sur une progression qui est exceptionnelle. Puis, bon, comme tout le monde, Charles Leblanc, bon, a vu la pandémie l'empêcher de jouer en 2020, a dû faire avec les moyens du bord, s'entraîner à la maison à Laval en 2020. Mais là, j'ai hâte de voir justement la progression qu'il va être en mesure de poursuivre en 2021. Donc, est-ce qu'on va décider de lui faire commencer la saison dans le 2A ou l'amener dans le 3A, je ne sais pas encore, mais peu importe où il va commencer, s'il reprend là où il a laissé, ben ça va être intéressant pour lui de possiblement avoir une chance éventuellement parce qu'on sait qu'il y a des organisations qui sont plus dures à percer que d'autres, mais sans manquer de respect aux joueurs qui jouent pour les Rangers du Texas, il y a de la place pour un gars comme Charles Leblanc s'il performe dans les mineurs, peut-être même dès la fin de la saison 2021, s'il connaît une progression là, qu'on pourrait dire à la Abraham Toro, donc connaître une belle saison dans le 2A, dans le 3A avant d'arriver dans le baseball majeur. Donc Charles Leblanc, c'est sûr que c'est un espoir qui est à surveiller là, en vue des prochaines années dans le baseball majeur.
Oui, puis Charles Leblanc, qui est la même année de naissance qu'Abraham Toro. Hein,
OK.
ils ont joué ensemble sur les équipes du Québec, Jeux du Canada ensemble. Charles frappait 4 pendant qu'Abraham frappait 2 dans le line-up. Là, fait que c'était,
Quand
avec un autre qui a été
même.
drafté par les Astros de Houston, qui va jouer avec les Aigles de Trois-Rivières, qui est Louis-Philippe Pelletier, mais c'était ça le cœur de line-up. C'était pas un mauvais cœur de line-up, je dirais.
Effectivement. C'est une belle motivation pour Charles Leblanc aussi de voir Taureau où est-ce qu'il est rendu. Tu sais,
C'est accessible, c'est tellement accessible, puis il y a le talent pour le faire en plus.
Exact. Puis je pense que je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est une bonne tête, c'est un bon kid aussi.
Oui,
tout à fait.
Exact. Est-ce qu'on passe à Taureau tout de suite ou tu veux conclure avec lui?
Ben écoute, oui, on peut passer à Abraham Toro. Tu sais, évidemment, c'est le premier nom qui nous vient en tête. Il y a pas beaucoup de Québécois dans le baseball majeur. Puis l'an passé, puisque Russell Martin n'était pas là, c'était le seul. Lui aussi, Abraham Toro, évidemment, lui, en fait, il a eu la chance de jouer en 2020 parce qu'en 2019, il avait connu une grosse fin de saison quand il s'était fait rappeler par les Astros de Houston. Puis lui aussi, ce qui est intéressant vraiment dans son cas, c'est que il peut pratiquement être deux joueurs en un, en ce sens où c'est un frappeur ambidextre, c'est un gars qui peut jouer au troisième but, c'est un gars qui peut jouer au premier ou deuxième but. Il peut apprendre à jouer tranquillement, pas vite, dans le champ extérieur. Donc, un gérant n'a pas à se dire, ah ben, je veux le garder contre les droitiers ou les gauchers, peu importe, parce qu'Abraham est capable de frapper les deux bords. Donc, c'est vraiment un petit couteau suisse là, pour Dusty Baker dans son alignement. Puis, écoute, quand on sait aussi que un gars comme Carlos Correa se blesse relativement souvent et qu'Alex Bregman peut être déplacé à l'arrêt court, ça fait une place pour Abraham Toro. Bregman aussi a eu sa part de blessure. Donc, vraiment, il peut, s'il travaille fort, il n'aura pas nécessairement sa position pour 162 matchs à Houston parce que l'alignement est en ce qu'il filet, ben, c'est un petit peu trop puissant. Mais s'il continue d'obtenir des belles performances, c'est sûr que Dusty Baker va essayer de trouver une manière de l'insérer un peu partout dans l'alignement. Ça peut même être au poste de frappeur de choix. Puis on l'a vu là, en 2020 avec la blessure de Yordan Alvarez. Il a eu sa chance aussi comme DH parce qu'on voulait garder son coup de bâton dans l'alignement. Donc, est-ce qu'il va être en mesure de racheter une saison 2020 un petit peu plus difficile offensivement? Moi, j'ai l'impression que oui. Je pense qu'à quelque part, ça peut être aussi la guingue de la deuxième année là, qui affectait Abraham Toro à ce niveau-là. Là, il est arrivé, il sait vraiment de plus en plus ce que ça prend pour jouer dans le baseball majeur. Puis je suis confiant de voir que s'il y a du temps de jeu régulier, ben, il va être en mesure de prendre son air d'aller.
T'es-tu d'accord avec moi que de dire que tout va dépendre de son bâton?
Oui, exactement. Houston, ça, c'est pas nécessairement l'équipe, la grosse force de frappe qu'il y avait de 2017 à 2019, mais c'est des gars qui sont capables de jouer pareil, c'est des gars qui sont capables de frapper. Tu sais, l'avant-champ avec Gurriel au premier but, Altuve, Correa, Bregman, c'est sûr que si tu frappes pas, t'as pas ta place dans cet avant-champ-là. Champ extérieur est un peu plus dégarni là, avec notamment George Springer qui est parti, Reddick non plus qui est plus là, mais quand même, s'il arrive pas à frapper, c'est sûr que Dusty Baker va vouloir faire confiance à d'autres joueurs. Il y a des bons jeunes joueurs quand même qui poussent du côté de Houston, à commencer par Kyle Tucker. Donc oui, c'est sûr que ça va passer par son coup de bâton. Puis on l'a vu, il a travaillé beaucoup, beaucoup aussi cet hiver. Donc j'ai confiance qu'avec le camp qu'il connaît, parce qu'il ne connaît pas un vilain camp, là, il a connu des belles performances quand même au camp des Astros, ben, j'ai confiance de voir qu'il va être en mesure de bien frapper là, pour commencer la saison.
J'ai vu un article aussi hier sur Passion MLB. Là. J'invite les gens, d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas ton site passionmlb.com, d'aller visiter ça pour des articles. Sur Correa, justement, qu'il est insulté un peu de son contrat, de l'offre de contrat. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être l'année pour Toro. Là. S'il performe bien, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de la gang qui va quitter. Là. Si c'est possible que ce soit Correa, je ne sais pas si Bregman va être une option à temps plein à l'arrêt-court possible. Puis là, on pourrait voir Toro s'insérer à temps plein dans l'alignement. Mais, on a Altuve, on a des gros noms. J'ai l'impression qu'il y a un gros salaire qui devra quitter éventuellement et faire de la place à Toro. Donc, je pense que ça va être plus l'année prochaine à temps plein, à moins de blessures, selon moi. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais...
Ben oui, écoute, j'ai rien à rajouter là-dessus, c'est exactement ça. Si les Astros ne veulent pas nécessairement se mettre à un gros salaire sur leur payroll, il y a déjà quand même quelques gars qui gagnent beaucoup d'argent, à commencer par Justin Verlander, qui est sur les lignes de côté présentement. On n'a pas nécessairement voulu payer George Springer ce qu'il voulait ou ce qu'il valait, peu importe. C'est pour ça qu'il est parti du côté de Toronto au final. Donc, si on veut vraiment miser un petit peu plus sur la jeunesse, parce qu'il y a des beaux lanceurs, des beaux jeunes joueurs de position qui poussent à Houston, et lui en fait partie. Donc, si on veut monter cette nouvelle vague-là, lui, il a la chance d'être déjà dans les majeures, d'avoir l'expérience des séries en 2019, même s'il n'a pas participé. Il a obtenu une apparition au bâton en 2020 en séries éliminatoires. Donc, vraiment, Abraham Toro, il est en train de se construire un CV pour dire, ben, c'est vrai que si vous laissez partir Carlos Correa, ben moi, pour une fraction du prix, je peux prendre la place au troisième but si on déplace Alex Bregman à l'arrêt-court. Donc, vraiment, la saison 2021 va être cruciale pour lui là, s'il veut vraiment s'établir dans les majeures, c'est vrai.
Exact. Tu as parlé de Toronto. Otto Lopez.
Otto Lopez, un gars qui a passé son secondaire au Québec. J'ai eu la chance de m'entretenir justement là, récemment là, sur mon show 91.9. Puis, Lopez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a connu vraiment des derniers mois qui étaient exceptionnels au niveau personnel parce qu'il a commencé possiblement par vivre la déception de ne pas avoir été invité au camp alternatif de l'équipe en 2020. Donc, on a dû s'entraîner de la maison, on a dû faire avec les moyens du bord, lui aussi, là, comme énormément de joueurs des ligues mineures. Puis là, par la suite, les Blue Jays ont décidé de le conserver sur l'alignement de 40 joueurs de l'équipe pour ne pas le perdre au repêchage de règle 5 ou le Rule 5 draft qu'on appelle. Il est allé jouer en République dominicaine, a connu des belles performances au cours de l'hiver et il a été invité au camp principal des Jays de Toronto. Puis il a participé à quand même plusieurs matchs là, des Blue Jays. Il a eu sa chance, il a eu j'ai vu plusieurs de ces matchs-là. Ce n'est pas tous les matchs qui étaient télévisés évidemment à Sportsnet cette année, mais il y en avait plusieurs où on le voyait et défensivement, il a réussi à jouer un petit peu partout lui aussi et à faire des beaux jeux défensifs. J'ai vu de l'agressivité sur les coussins de sa part aussi. Au bâton, il a tenu son bout et même s'il a été renvoyé dans les mineurs, ben, les Blue Jays l'ont rappelé une fois de temps en temps pour participer à des matchs de la Ligue des Pamplemousses. Donc vraiment, Otto Lopez est en train de faire ouvrir les yeux du côté de Toronto depuis plusieurs mois déjà et c'est vraiment intéressant pour un gars qui travaille fort et qui est en mesure de jouer là, un peu partout dans l'avant-champ qui pourrait être un atout s'il continue de cette façon-là dans plusieurs années là, du côté de Toronto.
Oui, absolument. Il amène un aspect vitesse. Là. Il est extrêmement rapide, très athlétique. Ça va être intéressant à suivre parce que lui aussi, il frappe aux portes des majeurs. Je pense qu'il a été le joueur de l'année il y a 2 ans, c'est ça? Joueur de l'année dans l'organisation des mineurs des Blue Jays. Fait que, il est vraiment sur la bonne voie, lui aussi.
Oui, vraiment. J'aime beaucoup. C'est surtout sa progression qui est fulgurante. De voir qu'il part, puis je ne veux pas dire qu'il part de loin, parce que je veux dire, c'était quand même un bon espoir, mais il part dans l'organisation qui mise exactement sur la jeunesse. On le sait, l'avant-champ des Jays va être dur à percer là, avec les Vlad Guerrero, les Kevin Biggio, les Bo Bichette. On peut rajouter les Jordan Groshans, les Austin Martin qui poussent aussi. Ce ne sera pas facile de faire sa place dans cet alignement-là des Jays dans quelques années. Mais s'il continue ses performances-là, ben, est-ce qu'il pourrait devenir justement un espèce de joueur d'utilité qui va se promener un peu partout et qui va réussir à gratter une centaine de matchs à force de jouer partout sur le terrain? Je pense que ça pourrait être une possibilité là, plus que réelle pour Otto Lopez.
Absolument.
Ouais, on reste à Toronto, Charles-Alexis. Jean-Christophe Masson qui a pris un chemin quand même différent, dans le sens que lui a été repêché par les Jays puis a accepté d'y aller. Il n'a pas passé par les collèges américains. Un parcours complètement différent d'Édouard Julien, d'Antoine Jean, même Raph Pelletier et tous les autres Québécois qui se promènent. Parle-moi de lui un peu.
Ben écoute, il était vraiment jeune. Je pense qu'il avait 16 ans quand il s'est fait repêcher par les Jays. Puis lui, ce qu'il avait dit à l'époque, c'est « Je ne voulais pas passer à côté de cette opportunité-là. » Possiblement que s'il avait été joué aux États-Unis dans les collèges américains, il aurait pu se faire repêcher plus haut que la 28e ronde. Mais lui, il a pris le pari de le faire. Et finalement, bon, en 2019, ils l'ont envoyé du côté de la République dominicaine pour pas nécessairement le faire commencer directement chez les pros à un jeune âge. Malheureusement pour lui, on sait ce qui est arrivé en 2020, donc lui aussi a été à la maison parce qu'il n'a pas été appelé sur le site alternatif des Jays, il était un peu trop jeune. Donc, présentement, c'est la situation pour Masson, mais j'ai vraiment hâte de voir à sa première année chez les pros parce que là, il y a un petit peu plus de millage dans le corps. Même s'il n'a pas joué, ben quand même, depuis 2019, il a la chance d'être en contact avec des gens des Jays qui lui donnent probablement des excellentes techniques d'entraînement pour devenir un bon pro. Donc, d'avoir la chance, justement, de jouer sa première saison professionnelle cette année, ça va vraiment lui donner un bon aperçu de c'est quoi le baseball professionnel, comment il doit s'aligner pour gravir les échelons, puis c'est le début pour lui là, dans le baseball affilié.
Oui, un beau produit de l'ABC aussi, JC Masson. Il y avait une bourse pour aller à l'université directement à Missouri, puis il a décidé de signer. Je pense que ça a été un bon choix pour lui. Là. Physiquement, il est grand, il est gros, il est très fort, il était prêt à vivre cette expérience-là. Donc, en espérant que ça commence pour lui, parce que quand je l'ai croisé à Québec là, il y a quelques semaines, là, il avait hâte que ça commence. Il avait hâte de jouer des games de baseball, là, des vrais. Là. Fait qu'on lui souhaite.
Mais c'est sûr, un jeune de cet âge-là qui n'a pas la chance de jouer depuis plus d'un an, là, c'est fou pour le développement. C'est vraiment mortel ce qui se passe. Donc, lui, c'est sûr qu'il a hâte de retourner sur un terrain de baseball là, comme tous les joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer en 2020, évidemment.
Oui, clairement. On passe au suivant, Édouard Julien.
Édouard Julien, on se souvient, c'est un nom qui avait fait énormément jaser. T'sais, il a connu une belle carrière à Auburn. Ça a été un des très, très, très bons joueurs là-bas. Il avait beaucoup de puissance au bâton. Il était bon défensivement aussi. Et finalement, les Twins l'avaient choisi peut-être un petit peu plus tard qu'on pensait. On pensait qu'Édouard Julien allait sortir plus tôt au repêchage. Finalement, il avait glissé. Et on ne s'attendait pas à ce que nécessairement les Twins lui donnent un bonnet à la signature comme un joueur qu'il voulait. Donc, s'il voulait être repêché dans les 10-15 premières rondes, lui a demandé un bonnet en conséquence. Et finalement, les Twins ont dit « Tu sais quoi? On tient à toi. Oui, on va te le donner. » Donc, Édouard Julien qui s'est amené dans l'organisation des Twins du Minnesota comme ça. Malheureusement, en 2019, n'a pas eu la chance de faire ses débuts chez les pros en raison d'une blessure. Donc, lui aussi, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il a joué. Et j'ai hâte de voir s'il va être en mesure de reprendre là où il a laissé parce que... C'est un joueur vraiment, comme on le disait, qui est puissant. Au camp des Twins, l'année dernière, il s'était lié d'amitié avec Josh Donaldson, qui est un joueur aussi qui joue au troisième but, qui avait donné des conseils. Donc, c'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience, malgré le fait qu'il n'a pas joué encore un match chez les pros. Puis c'est sûr que c'est dans cette optique-là qu'on va surveiller s'il va être capable, justement, de conserver cette puissance-là, de conserver son élan sur lequel il était parti là, depuis 2019 à Auburn. Donc, vraiment un nom qu'il va falloir surveiller dans les prochaines années parce que c'est un excellent potentiel, puis il pourrait se rendre dans les majeures plus tôt que tard là, au Minnesota.
Oh, c'est un talent brut. Là. Je l'ai pas côtoyé souvent. Je l'ai vu à quelques reprises, mais il déborde de talent. Là. Il est capable de frapper la balle régulièrement au bord de la clôture, les yeux fermés. Défensivement, bon, à Auburn, on avait vu qu'il y avait peut-être des choses à corriger, mais il a assez de talent là, pour tirer son épingle du jeu puis tracer sa voie jusqu'au baseball majeur. Là. Absolument.
Oui, ça va être le fun à suivre. Ouais. Benjamin Pelletier.
Benjamin Pelletier, c'en était un aussi. Et je pense, si je ne me trompe pas, les gars, que c'était un des plus jeunes, sinon le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été repêché là, dans le baseball majeur. Puis bon, Alex Agostino qui est allé le chercher du côté de Philadelphie. Un voltigeur qui lui aussi a plusieurs années dans les mineurs, donc ça fait déjà quelques années qu'il a été repêché, a joué plusieurs années dans le baseball affilié. Je pense qu'en 2020, il était rendu à prendre le prochain step parce qu'il y a eu beaucoup de saisons dans la saison courte, donc une saison qui commence plus au mois de juin, juillet. Là, je pense qu'il s'alignait peut-être possiblement plus pour jouer dans le A ou le A fort, donc une saison un peu plus pleine. Bon, évidemment, 2020 étant ce qu'elle est, encore une fois, ça l'a frappé de son côté. Mais en 2021, le voltigeur va avoir sa chance dans un niveau un petit peu plus élevé. Les Phillies de Philadelphie croient encore beaucoup en lui parce que c'est un gars vraiment qui est lui aussi capable d'aller chercher une certaine puissance au bâton. Donc, le champ extérieur éventuellement des Phillies de Philadelphie va avoir besoin d'aide. Andrew McCutchen, il n'est pas éternel. Il fait le travail pour l'instant, mais c'est un vétéran quand même qui vieillit. Donc, outre Bryce Harper, il n'y a pas énormément de certitudes là, dans les prochaines années dans le champ extérieur. Est-ce qu'il va avoir éventuellement deux places qui vont se libérer pour un jeune qui va pouvoir saisir sa place? Je pense que oui. C'est évidemment pas tout de suite que Benjamin va avoir sa chance, mais s'il continue justement sur ses succès de 2019, ben c'est là qu'il va être en mesure de rester sur le radar des Phillies, éventuellement d'être invité au camp principal peut-être l'an prochain ou dans deux ans, et finalement de faire sa place dans le baseball majeur.
Absolument. Benjamin Pelletier, ça c'est mon préféré. Je l'ai coaché en sport études dès secondaire 1. Si ma mémoire est bonne, il était en secondaire 4, je pense, quand il s'est fait repêcher parce qu'il avait redoublé une année. Puis il a réussi à finir son secondaire 5, même s'il avait signé avec les Phillies. Puis ouais, c'est un talent. Quand on parle de talent brut, là, court vite, lance fort, frappe la balle avec puissance. Assez qu'une fois, j'avais amené Alex Agostino parce que je voulais absolument qu'il voit Benjamin Pelletier, mais Benjamin est en secondaire 2 à ce moment-là. Puis Alex était dos à la cage, puis Benjamin frappait des balles. Alex s'est relevé, puis il a dit « C'est quoi ce son-là? » Qui frappe? Il s'est retourné, c'était Benjamin, secondaire 2, qui frappait avec un bat de bois. Ça sonnait comme un pro déjà à ce moment-là. Fait que déjà là, ça mettait la table pour dire « OK, bon, ben, on va le suivre un petit peu. » Puis Alex a réussi à le signer. Je pense que ça peut être un risque très faible, mais une belle reward à la fin, là, parce que je pense que lui aussi, il a le physique, il a tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout. Là. Fait que c'est à lui de tracer sa voie, mais comme tu as dit, Charles-Alexis, il est temps qu'il commence à jouer à un niveau supérieur qu'il a joué dans les dernières années, là, effectivement.
C'est sûr que ça va l'aider de jouer, parce que c'est beau jouer au baseball, mais quand tu joues 27-46 matchs par année, ben, c'est pas ça qui te permet nécessairement de prendre ton élan. Donc, s'il est en mesure de coller une saison de 100 quelques matchs, un peu plus comme c'est arrivé en 2019, ben, c'est là qu'il va montrer justement toute sa puissance, qu'il va avoir la chance sur le cours d'une saison de faire plusieurs beaux jeux qui vont attirer éventuellement l'attention des Phillies de Philadelphie. Donc, à suivre évidemment dans son cas là, en 2021.
Absolument.
Ouais. Max, tu as parlé du son du bâton. Là. Ceux qui n'ont jamais entendu des bâtons de baseball en bois résonner, c'est fou à quel point tu peux fermer tes yeux pour écouter un frappeur, puis tu le sais, le talent du gars, là, qui a un certain talent, parce que le son est complètement différent. Quelqu'un qui fait des bons contacts, là, c'est complètement... C'est assez spécial. Il nous reste trois noms, Charles-Alexis. J'ai envie qu'on les fasse les trois. Connor Angel.
Connor Angel, on le sait, il est passé vraiment proche de se faire repêcher en 2020. On n'a pas eu de Québécois, malheureusement, qui ont été repêchés en 2020 parce que, bon, le baseball majeur a coupé dans le grain un peu. Donc, au lieu de 40 rondes, ça a été seulement 5 rondes. Ça fait en sorte que, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de Canadiens en général. Il y en a eu 4, si je ne me trompe pas, qui ont été repêchés. Le Québec a été un peu oublié à ce niveau-là. Mais c'est un lanceur, justement, Connor Angel, qui est passé très, très proche. Parce qu'il avait connu une belle première saison dans la NCAA. J'ai hâte de voir vraiment sa progression cette année. Il connaît un début de saison, si on se fie à ses statistiques, peut-être un petit peu plus difficile. Mais en même temps, c'est sûr que quand tu es un lanceur et que tu n'as pas eu la chance de jouer nécessairement beaucoup en 2020, ben, ça peut être un peu plus long, prendre son air d'aller. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore plusieurs mois avant le repêchage, au mois de juin. Donc, il va avoir la chance d'offrir d'autres performances, justement, pour démontrer que les équipes qui ont passé dessus en 2020, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance de le repêcher en raison du petit nombre de manches, ben justement, en 2021, ils vont vouloir prendre une chance sur lui parce que c'est un lanceur vraiment là, qui a un potentiel exceptionnel.
Ah oui, absolument. Très grand, très gros. Lui, passer par les collèges américains a été un bon choix parce que là, on va parler de William Sierra par la suite, là, mais William Sierra était en avance sur Angel, toujours. Il était comme classé numéro 1, Angel 2. Mais aujourd'hui, Connor Angel là, lance des balles de feu, lance pour des prises, beaucoup de balles qui bougent. Il a fait 2 ans de JUCO. Il est à sa deuxième année NCAA. Je pense avoir apporté, il est rendu au-dessus de 200 livres. Là, puis 6 et 5, si je ne me trompe pas. Là, il est assez grand, assez costaud. Je pense que ça va être un choix logique là, dans le prochain repêchage.
Bon. Je laisse poursuivre. Max vient d'en parler, mais William Sierra.
William Sierra, c'est un nom aussi qui est intéressant parce que ça fait un petit bout quand même qu'il a été repêché. T'sais, il a été repêché très, très jeune, lui aussi, là, par les Mets en 2016. Et finalement, il avait décidé que ça passait pas nécessairement par le baseball affilié tout de suite. Et il avait décidé de poursuivre son chemin aux États-Unis. Et encore là, lui, présentement, en est à sa première saison à Washington State en ce moment. On l'utilise un peu comme partant, un peu comme un releveur. C'est sûr que William Sierra, lui, va vouloir obtenir sa chance éventuellement parce que, bon, il a pas refusé de signer avec les Mets parce qu'il ne voulait pas dans le baseball majeur. C'est évidemment parce qu'il sentait que d'aller dans le baseball affilié, c'était peut-être pas l'option numéro 1 pour lui. Puis Max va pouvoir peut-être plus nous en parler au niveau technique, le connaît peut-être un peu plus, mais c'est un gars vraiment qui a aussi des belles habiletés qui pourraient attirer le baseball majeur.
Oui, absolument. La question a toujours été une question de physique, s'il allait devenir plus gros. Je pense qu'il a réussi à grossir un petit peu, mais c'est un petit frame. Donc, c'est un plus petit garçon, mais lance très fort. Là, maintenant, c'est de savoir si on est capable de contrôler un peu plus la zone de prise, ce qui était son défi là, dans le temps là, où ce que, on montait souvent à 3 balles, 2 prises. 3 balles, 2 prises. Okay. Puis on avait de la difficulté à finir les frappeurs. On en échappait. Fait qu'on pouvait finir 3 strikeouts, 3 buts sur balle. Wow. Pas de coup sûr, pas de points. Mais on vient de faire une manche de 36-37 lancés. Fait que ça a été un questionnement dans son cas. Mais là, il est plus vieux, plus mature. Je pense qu'il peut avoir sa shot lui aussi là, au prochain repêchage.
J'ai hâte de voir ça. Je ne le connais pas beaucoup, honnêtement. Mais tu parles de grosseur aussi. Une fois que le contrôle est là, si tu lances fort, un Marcus Stroman à New York n'est pas très, très gros. On a connu des Pedro Martinez à l'époque. Là, c'est autre chose. Là, mais je pense que le gabarit va passer deuxième s'il y a un bon contrôle et une bonne balle rapide.
Exact. Ouais, s'il reste en santé.
C'est
souvent,
ça aussi.
Souvent, ouais. La grosseur est reliée un petit peu avec votre site en mesure de rester en santé aussi. Là.
Ouais, c'est
il y a beaucoup de pression sur les articulations.
On termine en force avec un de tes anciens, Max, Antoine Jean.
Antoine Jean, on sait que tu l'aimes bien, Max. Puis écoute, avec raison, là, c'est un lanceur vraiment qui, lui aussi avait été repêché par les Twins en même temps, qu'Édouard Julien. Ouais. Puis finalement, lui avait pris la décision de pas signer, de retourner, dans le fond, aux États-Unis. Et puis là, en 2021, là, on regarde le début de saison qu'il connaît, puis on voit vraiment qu'il a pris une coche par rapport à sa première saison à Alabama. Donc, il est vraiment utilisé strictement comme partant. On lui fait confiance pour plusieurs manches par match, arrive à vraiment aller chercher un bon taux de retrait sur des prises, à limiter les gars sur les sentiers. C'est un gars vraiment qui a pris une très, très, très belle coche au cours de la dernière année. Puis c'est sûr qu'il vient de tomber là, quand même plus haut que prévu sur le radar des équipes du baseball majeur.
Oui, absolument. Puis dans le fond, ce qu'il dit, que le nombre de manches qu'il lance, c'est le nombre de lancers qu'il fait. Fait que il est tellement tout le temps compétitif, tout le temps dans le match, que les entraîneurs, s'ils ont prévu 100 lancers pour lui, bien, il va se rendre quasiment à 100 lancers, puis ils vont sortir par la suite. Ils ont affronté, on en a parlé un peu plus tôt cette semaine, ils ont affronté l'équipe numéro 1 au pays. Ils les ont tenus pendant 5 manches et chacun d'un point qui était un coup de circuit, mais sinon, on s'en est bien tiré, tourné un super beau double jeu que son père m'a envoyé. Une balle loin à sa gauche, il a réussi à récupérer, tourner le double jeu avec la recours. Très talentueux, plus défensive, lance bien dans la zone des prises. C'est un gars qui a le contrôle et qui a le power. C'est pas un plus power, mais il y a du power qui va de lancer des balles autour de 90 000 à l'heure. Je pense que ce long run, là, je mettrais mon 2 sur lui.
C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs lanceurs comme ça qui poussent parce qu'il y a vraiment une démarcation qui est claire là, dans les joueurs qu'on a parlé. C'est des joueurs de position présentement qui sont dans le baseball affilié, mais la prochaine vague de joueurs, il y a beaucoup de lanceurs aussi qui s'en viennent. Des gars, on en parle, des gros gabarits, des 6 pieds 4, des 6 pieds 5, des gars qui sont capables de lancer avec puissance. Donc, j'ai hâte de voir ces gars-là éventuellement faire leur chemin dans le baseball mineur pour espérer se rendre dans le baseball majeur puis avoir un autre lanceur québécois là, qui va être en mesure de suivre les traces d'Eric Gagné.
Absolument.
Effectivement. Charles-Alexis, j'ai quelques questions sur Facebook pour toi. Possible que tu n'aies pas la réponse. Max, peut-être que tu l'as aussi. Premièrement, il y a un commentaire d'Antoine Desrosiers qui nous dit qu'on est un trio de feu. Ça, c'est... Merci, Antoine. Ensuite, Jason Therrien, est-ce qu'il est remis de sa blessure?
Jason Therrien, j'ai fouillé beaucoup. Puis je ne sais pas, Max, si tu as plus d'infos que moi, mais c'est difficile de trouver ce qui se passe avec Jason présentement. Puis ça fait quand même un petit bout. Là. Ça fait depuis 2017, sa dernière année où il a joué. En 2018, il avait signé un contrat de 2 ans avec Los Angeles avec l'espoir de pouvoir jouer en 2019. Puis finalement, en 2019, ça avait été le silence radio aussi. Donc, il n'était pas rétabli de sa blessure. 2020, évidemment, ben là, sans saison des mineurs avec une saison complètement différente, ben c'était impossible carrément de se trouver un contrat. Mais c'est ça qui est dommage pour lui, c'est que le timing a été très mauvais parce que justement, ça fait depuis 2017 qu'il n'a pas lancé, a subi une grosse opération Tommy John. Là, on est en 2021, 4 ans plus tard. Il commence à se faire tard, malheureusement, pour Jason Therrien, mais c'est sûr qu'on va lui souhaiter un showcase là où il y a peut-être des recruteurs qui vont être en mesure de le voir.
Oui, ben, juste avant la pandémie, il était chez Éric Gagné justement là, pour se faire voir. Oui, la blessure tarde à se guérir, mais on l'a eu en entrevue avec nos joueurs de baseball il y a peut-être un mois et demi, 2 mois peut-être. Jason, il est encore... il faut connaître Jason, là, entre les deux oreilles, là, c'est un des gars les plus solides qui se fait en termes de joueurs de baseball au Québec, au Canada, peut-être même... Okay. Tu sais, en termes d'individu, là, il est très fort entre les deux oreilles, il est très focus sur où ce qu'il veut s'en aller. Puis il est encore accroché à dire « je vais y retourner ». Donc, avec ce mindset-là, puis ce qu'il prend comme décision, je suis assez confiant qu'il va avoir, il va avoir sa chance d'y retourner. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles dans son cas, lui.
C'est sûr que d'avoir Éric Gagné dans son coin, puis ça fait plusieurs années qu'il est là aussi. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'il va passer du temps en Arizona à la maison avec Éric Gagné, qui se pratique à lancer ensemble. Ça, c'est un atout, évidemment, qui est indéniable là, dans son coin. Là, on va pas se le cacher. Là.
Absolument.
Ouais. Dernière question, est-ce que tu sais combien de rondes au repêchage cette année et est-ce que ça va être à la même date?
Je pense pas qu'il prévoit bouger le repêchage. De mémoire, je pense qu'on prévoit 20 rondes parce que je sais que c'est moins que le 40 habituel. Ouais. J'hésite à en dire souvent, honnêtement, à brûle pour point comme ça, je pense que c'est 20, mais c'est sûr que ça va être un petit peu plus que 5. Puis c'est ça qui est une bonne nouvelle aussi pour les gars qu'on a nommés, nos Québécois, puis il y en a plusieurs d'autres aussi qu'on n'a pas eu la chance de parler. À 5 rondes, c'est peut-être plus facile d'aller choisir des joueurs des États-Unis qu'on connaît plus pour les recruteurs américains, mais quand on est rendu à 10-20 rondes, c'est là que des gars comme Alex Agostino, mettons à Philadelphie, peuvent avoir un petit peu plus leur chance de dire, ben écoute, il y a ce gars-là que je connais, c'est un peu comme c'est arrivé avec Benjamin Pelletier. Donc, je pense qu'on s'attend à 20 rondes. On s'attend évidemment à un peu plus de Québécois repêchés là, que l'année dernière.
Oui, ça va avoir lieu un peu plus tard. Là. Ça va être le 11 au 13 juillet, de mémoire, le repêchage. Il y a des ligues qui s'organisent là, pour le repêchage, des ligues aux États-Unis qui vont être juste sur invitation pour des joueurs qui sont éligibles au repêchage parce qu'on sait que il y a certaines universités qui sont difficiles à aller voir à cause du nombre de personnes restreintes sur place. Donc, ça va faciliter là, l'avenue des recruteurs. Donc, c'est 11 au 13 juillet cette année.
Excellent. Je viens de penser aussi, je passe à autre chose, mais pendant que tu es là, Charles-Alexis aussi, hier, il y a eu une nouvelle sur Pierre Arsenault qui a été engagé par les Capitales de Québec. Quand même une bonne nouvelle pour les Capitales. Là.
Ben oui, c'est un homme de baseball. Il a vraiment roulé sa bosse avec les Expos longtemps avec les Marlins. Puis d'avoir la chance pour les Capitales de l'engager, justement, d'avoir son expertise du baseball majeur, c'est une belle nouvelle. Puis pour Pierre Arsenault aussi, justement, de son point de vue personnel, d'avoir la chance de se retrouver du travail, même si ce n'est pas dans le baseball majeur, d'avoir du travail à la maison au Québec, ben c'est une belle nouvelle. Puis qui sait, ça va peut-être justement leur propulser éventuellement vers le baseball majeur, là, si c'est ce qu'ils souhaitent évidemment.
Moi, pour avoir parlé quelques fois à Pierre, je pense qu'il est très, très heureux de se joindre au Capital. Puis je pense qu'il était rendu à être dans un rôle comme ça dans sa vie. Fait que je pense que c'est une très bonne affaire pour lui.
Tout à fait, tout à fait. Charles-Alexis, les gens qui veulent t'entendre ou te lire, ils vont où?
Pour nous lire, c'est le passionmlb.com. Donc, on publie des articles à tous les jours sur l'actualité du baseball principalement. Puis pour nous entendre, l'émission Passion MLB au 91.9 Sport, donc qui est diffusée le samedi de 15h à 16h, en rediffusion le dimanche. J'ai quelques interventions aussi un peu plus irrégulières là, dans les émissions de la semaine, mais c'est surtout la fin de semaine là, qu'on rentre un peu plus en profondeur là, avec une heure de baseball complète. Puis pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter en direct, bien, sur le site web du 99 Sport, il y a la section Passion MLB dans la section émissions, donc on peut retrouver là, tous les extraits audio qu'on dépose là.
Excellent. Hey, un gros merci pour ton temps. J'en ai pris un peu plus que je t'avais dit, mais
ben, y a aucun problème.
Je pense que c'est intéressant.
Quand on jase de baseball, c'est jamais assez long.
Exact. Un gros merci, Charles-Alexis.
Merci, les boys.
Salut. Bye. Max, on s'en va maintenant. On va rejoindre notre barbu préféré. On va dire ça, notre barbu préféré. Il a perdu de la barbe un peu.
Ben oui, j'ai vu ça, ses photos.
Notre barbu, moins de barbe. Il se ressemble un peu moins, on dirait.
Ben oui.
C'est malade. C'est malade.
Ça va bien, vous autres?
Ça va bien. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
Il était rendu tellement long, là, que j'avais l'air de ZZ Top. Je suis tanné. L'été s'en vient.
Commence à faire chaud.
Cet été, donc, je voulais me mettre beau. Là.
OK.
T'es beau.
Merci, Max.
Hey, Barbu, on t'a reçu, ça fait 3 semaines, je pense. Ça fait 3 semaines qu'on t'a reçu pour lancer l'association entre Baseball Québec et toi. On a lancé ton premier texte qui était à propos des rebelles des Laurentides, qui s'intitulait Cavana. Ce matin, tu nous relances avec un deuxième texte. Je te laisse aller avec ça. Tu peux nous le présenter, l'idée, elle vient d'où et tout ça, puis après ça, partir avec ton texte.
Parfait. Ben, l'idée, elle vient de toutes les saisons que j'ai coachées d'une petite catégorie de Timbits à l'époque. On était commandité par Tim Horton en allant à Tombe et Moustique, l'époque du T-ball, le fameux T-ball. Puis nous, à Saint-Jérôme, on avait un T-ball qui coûtait beaucoup trop cher. D'ailleurs, celui que tu plugues et que ça te prend une batterie, qui coûte à peu près 2 000 $, puis qui fonctionne à moitié du temps. Tandis que les autres villes, j'avais vu ça, il y avait une crinque en métal. J'en ai pogné un au Baseball Town dans ce temps-là, qui m'avait coûté 75 $. C'était efficace, là. Juste à retêter une botte un moment donné, puis ça allait bien, là. Mais finalement, Saint-Jérôme s'est doté de ces lance-balles-là un moment donné, mais ça vient de là, le texte.
Okay. Parfait. Ouais. Puis juste te dire aux gens qui veulent te suivre pendant que tu lis, il est disponible déjà sur Baseball Québec actuellement. Donc, ils peuvent suivre là. Ça s'intitule « Fausse balle et sourire ».
Et voilà. J'ai même pas besoin de dire... Tu vois, un animateur, c'est ça. J'ai même pas besoin de dire le titre. D'ailleurs, t'as-tu remarqué que j'ai un nouveau micro?
Bien, j'ai vu passer sur tes réseaux sociaux. Mais ta voix est comme
remarquable présentement. Bon, ben OK. Trêve de flafla, là, on commence. L'été 2016 fut une saison mémorable, ben, comme toutes les saisons que j'ai eues à coacher. Chaque saison amène son lot de surprises et de déceptions. Cette année-là, le chaos faisait partie de mon équipe. Oui, on aurait dû nous appeler Apocalypse au lieu d'Auréole. Nous étions loin de la machine des Orioles de Baltimore des années 70, avec leurs 4 lanceurs de 20 victoires. Culler, Dobson, McNeely et le très jeune Jim Palmer, un futur Hall of Fame. Nous étions les Auréoles B2 dans la catégorie Atom pour le meilleur et surtout pour le pire. Ah, j'ai eu tellement de plaisir avec cette bande de joyeux lurons et lurons. J'ai souvenir de notre premier match dans lequel on n'avait pas perdu. On était 11-0. On affrontait la meilleure équipe au classement, les non moins détestables Blue Jays de Sainte-Sophie et mon ami l'ineffable coach Hugo Desjardins. Aucune victoire et 11 défaites pour partir une saison. C'est plate pour tout le monde, pour les jeunes, les parents et les coachs. Personne n'aime ça perdre de cette façon, même si la participation est importante. Ce n'est pas une annonce du gouvernement ni un communiqué de Baseball Québec en début de saison. C'est la dure réalité d'un mauvais club de balle qui le vit jour après jour sur le terrain, pour le vrai. Je me suis remis en question 1000 fois. J'ai refait mon line-up de haut en bas, de bas en haut. J'ai tout essayé en pratique. C'était le bout de la marde. Si cette année-là, nous avions obtenu des points pour jouer dans le sable, on est des attentes, là, rappelez-vous. Je crois sincèrement que nous aurions gagné le tournoi provincial, c'est clair. Cet après-midi-là, je crois que j'ai fait ma meilleure allocution à vie, courte et concise. Ma gang de monstres était tannée de perdre. Moi aussi, et surtout les parents. J'étais seul à coacher ce jour-là. Mes assistants étaient en vacances. Voici en gros mon discours d'avant-match. Trop émotif pour un juillet d'été. Trop chaud avec des petits et des petites atomes. J'ai regardé, j'y vois encore, ils étaient tous là avec leurs gros yeux, là, un genou à terre. Aujourd'hui, je suis seul pour vous coacher. J'ai besoin que vous soyez concentrés. Je vais vous le dire, gang, tout le monde pense qu'on va perdre aujourd'hui. Les Blue Jays sont certains de gagner, puis je ne devrais pas vous dire ça. Mais je pense même que nos parents pensent qu'on va perdre aujourd'hui. C'était le silence complet. On s'est tous pris épaule par épaule. Ça, c'était avant la COVID, évidemment. On était collés l'un sur l'autre comme des sardines. Puis là, j'étais vraiment émotif parce que j'aimais beaucoup ces petits garçons et ces petites filles-là. Je les adorais. Je disais, on n'est pas talentueux, c'est vrai. On n'a pas de talent. On n'a pas de bon frappeur. On n'est pas bon. C'est vrai. Mais une chose qu'ils ne pourront jamais vous enlever, c'est que vous ne lâchez jamais. Ça, c'est vrai. Même quand c'est dur, vous ne lâchez pas. Même l'autre jour, quand c'était 14-0, vous n'avez pas lâché. D'ailleurs, à remise des prix de fin d'année, nous avions gagné celui de meilleur esprit d'équipe. Bon, yes. On méritait tellement. À noter que les Mr. Freeze ont été mangés avant la partie. Question de relaxer ma gang. Mes joueuses et joueurs n'ont pas regardé dans le sable cette journée-là. Ils étaient focus. J'avais la larme à l'œil. C'était beau à voir. Même le grand Carl Ripken ne m'aura pas fait pleurer comme ça. J'avais une coach adjointe finalement ce jour-là, ma shortstop, mon arrêt-court, ma fille Mathilde, vêtue de son beau casse rose, celle que j'aime autant que la vie en elle-même, la capitaine sans titre. Elle n'avait pas besoin de son père pour leader son équipe, c'est un leader naturel. Mes frappeurs ont frappé ce jour-là, les Félix Corbeil, les Gab Lefebvre, les Lucas Julien, les Mathilde Beauséjour se sont démarqués. Mon quatuor a commencé son année au 12e match contre la meilleure équipe de la Ligue. Le score final, 13-13, au plus beau parc de notre Ligue, celui de Sainte-Sophie, le parc Sophie-Masson. Mais comme après tous les matchs, je donne des balles pour le meilleur joueur de la partie et je donne une balle pour l'effort ou le héros silencieux. Une balle de couleur fluo de la MLB. Cette journée-là, la balle de l'effort a été donnée à un joueur qui est venu jouer avec du Advil au raisin dans le corps. L'unique Gab Lefebvre, qui faisait des petits dodos d'après-midi. Pour la balle du match, j'ai demandé à ma gang qui la méritait. Ils ont voté unanimement pour leur capitaine sensé, Mathilde. Des fois, quand je pense à mes années de coach, je pense beaucoup à vous autres, à mon équipe de 2016. Vraiment. Je pense qu'on a perdu la finale des séries par un seul point. Je pense qu'aussi qu'en tournoi, on a démoli les Angels de Blainville 15-6. Vous étiez particulier et unique. Pas bon, mais vous aviez beaucoup de cœur. Félix Corbeil, Timothée Proulx, Lucas Julien, Mathilde Beauséjour, Charles Delaurier, Jonathan Modesto, j'ai jamais dit Jonathan, je t'ai toujours appelé Modesto, Gab Lefebvre, Zach Lepage, Zach Proulx. Merci. Vous êtes mon plus beau souvenir de baseball.
Fin.
Bravo.
Good job. Merci. Good job. Merci pour ce texte-là, M. Beauséjour.
Hey, d'ailleurs, un de mes joueurs dans cette équipe-là, Gabriel Lefebvre, sur notre plus triste, son père est mort cette semaine. Fait que je veux lui souhaiter toutes mes sympathies.
Nos sympathies, oui.
Nos sympathies, effectivement. Écoute, c'est ça qu'on aime en fait de tes textes. Puis je pense que ça amène l'expérience, une expérience qui est. Oui, il y a des parents que leurs kids vont peut-être atteindre la MLB un jour des collèges américains, mais il y a ces gangs-là de jeunes qui ont des étés malades qui vont se rappeler des coachs, qui vont se rappeler de ça toute leur vie probablement, puis il n'y a aucune chance que ces jeunes-là atteignent le midget fort, tu sais, mais ils ont des belles expériences, puis c'est ça qui est cool.
Même pas le A, là. On est loin de ça, là.
Mais c'est l'expérience d'une vie, puis c'est des souvenirs.
Exact. C'est ça qui est beau, là. Cette année-là, on était vraiment pas bons. Une journée, je les ai vus tourner un double jeu, ben ça devient, c'est magique. Puis ils s'en rendent même pas compte, ils l'ont fait, puis ça devient magique, là, un double jeu, là.
Ben oui.
Ouais. Comme Houdini, là, on était, nous, sur le banc, là, on était hystériques, là, les parents, ça sautait partout, puis les jeunes, ils venaient de faire un double jeu, puis ils s'en rendaient même pas compte, là.
Ouais, non,
c'est le fun de parler de ces équipes-là aussi, là, tu sais. Il n'y a pas juste les équipes, là, évidemment, là. On est loin de l'ABC, ça, c'est clair, là.
C'est bien correct, c'est bien correct. J'ai commencé, moi aussi, dans le... Moi, honnêtement, ma première année de coaching, là, c'est dans le Bantam A, qui est aujourd'hui le Bantam B.
OK.
Ma première année de coaching, fait que les histoires que tu comptes, les moments mémorables, les... on s'en va en finale, puis qu'on se décide de se mettre les cheveux tout rouges, d'un coup de tête... Puis on se rend compte que c'était du gel là, qui me faisait mettre des cheveux rouges à tous mes gars. T'étais pas capable de mettre la casquette.
Bon,
j'avais toute la tête grosse de même, dure comme de la roche, parce qu'on avait tous les cheveux rouges, scintillants au soleil. C'était des beaux souvenirs, c'est incroyable.
Ouais, c'est pas battable ça. Puis là, c'est pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, je vais aller ailleurs. Je veux vous parler de l'historique du baseball. Je vais vous parler des Boys of Summer, les Dodgers de Brooklyn. Des années 50.
Excellent.
Yeah. Yes, on a hâte d'entendre ça. Merci pour ton temps en ce vendredi matin. Encore une fois, les gens peuvent t'écouter et te lire à quel endroit?
Principalement là, sur mon patreon.com/barbudeville.
Excellent.
Sinon, sur le barbudeville.com.
Excellent. Un gros merci, Barbu. Bon week-end.
Merci. Hey, bon week-end
à vous autres. Merci.
Bye-bye.
Salut.
Salut.
Là, on a dépassé largement notre 20 minutes habituelles, Max, mais c'est intéressant, je trouve, pour un vendredi en plus. Les gens sont au rendez-vous, fait que c'est très, très cool. Il y a Robert Brousseau qui dit que c'est le Ultimate Pitching Machine. Je ne sais pas si c'est le vrai nom de la machine, là, mais...
C'est le lance-balle, ça?
Oui, puis Max...
Lance-balle à 2000?
Oui, c'est ça, puis Max qui le Zuka, c'est un bazooka, là, j'imagine, là, mais à moins que ce soit le titre, le Zuka. Bref, la semaine prochaine, Max, on a... On a une seule personne de bouquet officiellement, c'est lundi, puis c'est Max Lamarche. Il y a eu un petit report là, qui va probablement être mercredi pour un autre invité. Donc, Max qui revient avec ses sujets comme DG de la Fédération. Mercredi et vendredi, on a des plans pour ça. Probablement, ça va être intéressant. C'est sûr que ça va être intéressant. Donc, merci pour la belle semaine, encore une fois. Merci aux gens qui sont là. Pour vrai, je suis vraiment content parce qu'on a dépassé les 40 minutes puis il y a des gens, autant qu'au début. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être là. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à Max.
Bon 30e.
Bon 30e, effectivement. Je vais aller me faire un deuxième café. Je vais peut-être mettre du Baileys dedans. Là.
Oh! Intéressant.
Ben non, intéressant. Ça c'est après la job.
OK.
Merci Max. Bon week-end. Salut.
Bye.